Vous entendez, voilà. Merci beaucoup pour la présidence, pour la présence de chacun, chacune de nous ici, ensemble, rassemblés en Église pour adorer notre Seigneur, pour l'écouter et aussi pour permettre de vivre cette communion que lui-même, il nous appelle. Et merci parce que tu as bien introduit le message aussi avec la présidence par la grâce et le soutien de l'esprit concernant les difficultés qu'on peut rencontrer dans la foi, dans notre marche, sans oublier que le Seigneur avec nous, nous soutenant par sa puissance, la puissance de son esprit, afin que nous puissions aussi résister et continuer notre marche avec lui. Et aujourd'hui, le Seigneur a mis dans mon cœur de partager avec l'Église Ruth, le chapitre 1, l'histoire de Ruth et surtout l'histoire aussi d'une famille qui a confronté des difficultés, qui a confronté des épreuves, mais que le Seigneur a démontré dans ces épreuves que c'est lui qui conduit l'histoire individuelle et l'histoire même collective de son peuple. Et pour les amener jusqu'au bout de ses desseins, de sa destinée. Et nous allons lire le verset 1 jusqu'à 5, et après, on va sélectionner quelques versets pour lire afin de pouvoir essayer d'analyser le contexte et ensuite tirer quelques enseignements pour nourrir notre foi ce matin. Nous lisons Ruth 1, versets 1 à 5. À l'époque où les chefs gouvernaient Israël, une famine survint dans le pays. Un homme de Bethléem en Juda partit rejoindre avec sa femme et ses deux fils dans la campagne du pays de Moab. Cet homme s'appelait Élimélec, sa femme Noémie et ses deux fils Mahlon et Kilon. Il faisait partie des Éphrates. Tiens, de Bethléem en Juda. Ils parvinrent à Moab dans la campagne et s'y installèrent. Et Élimélec, le mari de Noémie, mourut là et elle resta seule avec ses deux fils. Ils épousèrent des femmes moabites dont l'une s'appelait Orpa et l'autre Ruth. Ils demeurèrent là une dizaine d'années. Puis Mahlon et qui l'ont mourir à leur tour, et Noémie resta seule, privée à la fois de ses deux fils et de son mari. Le verset 6. Lorsqu'elle apprit que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple et qu'il lui avait donné de quoi se nourrir, Noémie se mit en route avec ses deux belles-filles pour rentrer du pays de Moab. Verset 8. Alors, Noémie dit à ses deux belles-filles, allez et rentrez chacune dans la famille de votre mère. Que l'Éternel soit bon pour vous comme vous l'avez été pour ceux qui sont morts et pour moi-même. Le verset 11, Noémie leur dit, retournez chez vous, mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Je ne peux plus avoir des fils qui pourraient vous épouser. Et le verset 14, alors les deux belles-filles se mirent à sangloter. Finalement, Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth resta avec elle. Verset 15, Noémie lui dit, regarde, ta belle-sœur est partie rejoindre son peuple et ses dieux. Fais comme elle, retourne sur les tiens. Et verset 16, mais Ruth lui répondit, n'insiste pas pour que je te quitte et que je me détourne de ta route. Partout où tu iras, j'irai. Où tu t'installeras, je m'installerai. Puis ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Et le verset 18 et 19, devant une telle résolution à suivre Noémie cessa d'insister et elles s'en allèrent toutes deux ensemble jusqu'à Bethléem. Leur arrivée là-bas mit toute la localité en émoi. Voici le texte qui nous servira d'exhortation ce matin, et nous voici dans une situation où peut-être on peut voir que la situation peut-être est difficile avec les personnes qui ont vécu cette circonstance. Je ne sais pas si parmi nous, quelqu'un pourrait ou quelqu'une pourrait résister à une telle situation d'une manière indemne et continuer à rester pleinement dans une foi sereine et une foi qui convient à la gloire de notre Seigneur. Et avant de rentrer dans le texte, j'aimerais juste nous faire voir que les personnages qui sont cités ici, nous voyons qu'il y a à peu près deux, quatre, six personnes. Et les six personnes, il y a Naomi, il y a Ruth, il y a Orpa et le mari de Ruth qui est Elimelech. Ensuite, les belles-filles qui sont Orpa et Ruth. Donc, en introduction, Ruth est une Moabite et la famille de son mari était venue à Bethléem. Nous voyons ici que Ruth est une Moabite. C'est les descendants, les Moabites sont les descendants de Moab. Et vous vous souvenez, j'avais fait une méditation sur Genèse 19 qui montre comment
Lot.
avec sa fille, il y a eu un enfant qui est venu et finalement cet enfant voilà, a eu une descendance et les Moabites sont ces descendants-là. Et là, nous voyons la lueur aussi de la grâce de Dieu. Dieu permet, dans des circonstances, que Ruth puisse faire partie de l'histoire du peuple de Dieu et de celui même de notre Seigneur. Une famine les avait obligés de s'y réfugier dans cette région. Naomi et son mari Elimelech et ses enfants Élion et Kilion qui se sont déplacés comme étrangers dans un lieu où il y avait peut-être des provisions. Bethléem est un lieu qui s'appelle la maison du pain. Et en ce moment, nous voyons que la maison manquait du pain et il fallait se déplacer vers un autre lieu à Moab, ou qui était un plateau où il y avait vraiment la possibilité de bien nourrir les troupeaux et de faire de bonnes récoltes. Au cours de leur séjour, Naomi va se retrouver face à une grande épreuve. Une grande épreuve, c'est-à-dire non seulement il y a la famine qui les rend étrangers dans un autre pays, mais aussi son mari va décéder et ses deux fils aussi vont mourir. Par la suite, Naomi entend que les bienfaits de Dieu qu'il a opérés dans son pays natal et elle décide de rentrer dans son pays pour revoir son peuple et s'installer. Ruth décide de suivre sa belle-mère et de s'attacher fermement à son Dieu et vraiment rester dans cette communion non seulement avec sa belle-mère, mais aussi avec surtout son Dieu et sa croyance. Ruth était l'arrière-grand-mère du roi David et la lignée descendante de Jésus, comme je vous ai annoncé tout à l'heure. Ce que nous pouvons retirer ce matin, comment l'attitude de Naomi dans son affliction peut-elle nous aider aujourd'hui? Comment un homme et une dame vraiment dans telles circonstances peut nous aider à comprendre, à avoir une belle attitude devant notre Seigneur et avec notre environnement dans des circonstances où nous sommes accablés par l'affliction, accablés par des épreuves, accablés par toutes sortes de difficultés. Et aussi, ce que nous pouvons retirer, c'est comment l'affection aussi et l'intégrité de Ruth peuvent-elles nous aider aujourd'hui? Nous voyons Ruth, malgré qu'elle a perdu son mari, ne se décourage pas, ne dit pas simplement j'ai perdu mon mari, donc basta, maintenant je rejoins mon peuple et je fais une nouvelle vie. Mais Ruth vraiment a dit, je vais suivre, je vais non seulement te suivre, mais aussi suivre ton Dieu, parce que grâce à toi, j'ai pu entrer parmi un peuple que Dieu a choisi pour faire son peuple. Donc, j'aimerais que nous abordions ce texte avec deux points seulement, affronter les défis sans les déplacer, et ensuite de l'affliction à l'affection selon Dieu. Noémie et Ruth sont passés de l'affliction et sont rentrés dans la dimension de l'affection réelle avec Dieu. Affronter les défis. Élimélec a voulu simplement déplacer les défis et non les affronter. Parce que nous voyons que dès que la famine a retenti dans leur pays, à Bethléem, qui est la maison du pain, Élimélec n'a pas cherché à savoir est-ce que Dieu me permet de descendre à Moab ou pas. Il s'est levé et il a dit, là-bas, ça doit être un lieu où je peux me rendre et vraiment faire des provisions, nourrir ma famille et rester et m'installer parmi ce peuple. Et souvent, est-ce que nous aussi, dans nos difficultés, nous n'essayons pas, au lieu d'affronter les difficultés, les défis qui sont devant nous, nous n'essayons pas de fuir, nous n'essayons pas de déplacer les problèmes, de ne pas résoudre les vrais problèmes. Et si c'est un problème spirituel, le Seigneur nous invite à aborder et à affronter le problème d'une manière aussi spirituelle. Si c'est un problème aussi qui demande que nous puissions voir la réalité en face, que nous puissions aussi avoir l'audace, la force, le courage que le Saint-Esprit peut nous donner afin de voir le problème aussi en face. Nous voyons aussi dans notre réalité du monde actuel beaucoup de déplacements et finalement, souvent, il y a des déplacements qui ne sont pas véritablement, qui ont des raisons profondes. Par exemple, il y a des personnes qui, avec la guerre, qui se déplacent, il y a des personnes avec la famine qui se déplacent. Il y a des personnes avec les circonstances difficiles qui se déplacent d'une manière ou d'une autre. Mais est-ce que réellement les problèmes qui les poussent à partir sont réellement abordés? Ça, c'est une question réellement qui n'est pas de notre ressort, mais c'est une question qui peut aussi chacun de nous, nous pouvons la poser. Est-ce que ces raisons sont réellement traitées à la racine, au fond, pour permettre que les flux migratoires et aussi tous les problèmes que nous entendons, les décès dans la mer la semaine dernière, 400 personnes sont noyées dans la mer et j'étais là avec cette information, avec les larmes aux yeux. Comment des personnes quittent leur pays parce que ils sont en guerre ou parce que il y a la famine ou parce que il y a des circonstances difficiles et se noient dans la mer en appelant au secours. Et ces personnes ont entendu l'appel au secours, mais n'ont pas intervenu. Et là, nous voyons aussi vraiment les difficultés en deux côtés. D'un côté, l'eau, là où les personnes sont quittées, et de l'autre côté aussi, l'accueil qui a été refusé et qui a été demandé et qui a été refusé. En déplaçant les défis, on peut tout simplement amplifier les problèmes. Et il y a beaucoup de choses que nous voulons résoudre en les déplaçant, en pensant que ces problèmes sont résolus, mais finalement, les problèmes sont plus amplifiés. Noémie fait face au défi avec courage et détermination avec sa situation. D'abord, son statut de réfugié. Un réfugié, une réfugiée, c'est une personne laissée pour compte. Elle est fragilisée et complètement parce qu'elle n'est pas dans son pays. Elle n'est pas au milieu des siens. Elle est regardée comme une étrangère. Mais elle dit, je vais affronter les difficultés, les problèmes ou qui sont les miennes, les miens et celles de ma famille. Ensuite, au statut de veuve. Une fois veuve, dans certaines cultures, la veuve est vraiment mal regardée, mal écoutée, mal entendue. Parce qu'une veuve, on se dit, bon, son mari n'est plus là, donc personne ne va s'intéresser à elle, s'occuper d'elle, l'écouter, l'entourer. Naomi se retrouve dans cette fragilité encore. Premièrement, réfugiée. Deuxièmement, veuve. Et ensuite, son statut de femme sans enfant ni petit-fils. Combien de femmes sont en difficulté parce que simplement elles n'arrivent pas à avoir d'enfants. Combien de veuves sont en sanglots chaque jour, chaque matin, chaque nuit, parce que simplement elles voient que elles n'ont pas de petits-fils, elles n'ont pas de petites filles, et finalement leur vie est réduite à elles seules et dans cette souffrance, elles n'ont personne à aussi confier leurs souffrances et leurs difficultés. J'aimerais attirer notre attention sur ces trois aspects de la souffrance à laquelle Naomi et Ruth peuvent être confrontées. Et peut-être ça peut être chacun de nous aussi. Chacun de nous peut être dans une ou dans d'autres circonstances. Soit on n'est pas vraiment, on est décalé de son lieu de. Où on a toutes les possibilités de nous épanouir et étant fragilisé dans la solitude et soit aussi étant dans une circonstance où on se demande l'avenir, comment je vais faire? Parce que je suis dans la solitude, je suis seul et il n'y a pas d'espoir pour ma situation. Naomi rentre dans sa propre famille. En ayant entendu que la situation de son pays a été résolue, Bethléem est devenue la maison, véritablement la maison de pain, et il s'est dit, maintenant je vais entrer dans mon propre pays, peut-être parmi les siens, je pourrais vivre d'une manière digne et je pourrais manger à ma faim et je pourrais véritablement s'occuper de ma vie. Noémie décide d'assumer son veuvage. Elle décide simplement d'accepter que, voilà, je suis veuve, je suis âgée, je ne peux plus avoir la possibilité de me remarier pour avoir des enfants pour mes belles-filles. Donc, elle assume. Elle n'essaie pas de s'apitoyer en tant que veuve et en tant que vivant dans la solitude, mais elle dit, je ne peux plus me remarier, donc j'assume ma situation et je vais vivre avec ma situation d'une manière pleine, en confiance avec mon Dieu. Naomi décide de rendre libre alors ses belles-filles pour se remarier, en les disant, voilà, maintenant, la situation, voici Milon qui veut dire. Qui veut dire maladie, son fils se nomme comme ça, et Kilion qui veut dire faiblesse et fragilité. Et c'est souvent, je me suis posé la question, les noms que nous donnons à nos enfants, souvent, ça, c'est pas évident. Comment appeler son fils qu'on aime maladie et faiblesse et aussi. Fragilité. Et les enfants effectivement ont été vraiment sous la maladie durant toute leur vie et sont décédés. Et la faiblesse et la fragilité a emporté le deuxième aussi. Et souvent, c'est important de vérifier, de donner un nom qui correspond vraiment à quelque chose d'une promesse de bien à nos enfants. Là n'est pas la situation, c'est juste une parenthèse que je remets, je referme, parce que souvent les noms peuvent avoir des incidences. On ne peut pas appeler un enfant tous les jours maladie, 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 faiblesse et aussi et finalement vivre le contraire. Elle bénit le Seigneur, Naomi bénit le Seigneur dans sa souffrance. Elle ne s'apitoie pas sur sa souffrance. Romains 8, 28 nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Accepter sa souffrance fait partie de notre guérison. Accepter que le Seigneur a permis cette situation nous permet de nous galvaniser en force et dans la confiance pour affronter soit la maladie, soit les souffrances et les épreuves que nous pouvons traversée. Naomi a accepté non seulement son veuvage, assumé son veuvage, mais aussi elle a assumé aussi sa souffrance et tout ce qui lui est arrivé. Le deuxième point de l'affliction vers l'affection et même de la souffrance vers la guérison, on peut aussi le dire de cette manière-là. La famille d'Elimelech affronte l'affliction dans l'affection les uns pour les autres. Une guérison de notre situation, dans notre épreuve, peut aussi passer par l'amour, la tendresse que nous pouvons entourer les uns les autres. Et ici, nous voyons que la famille, lorsque l'épreuve est venue, d'abord Élimélec est décédé, ensuite les deux fils. Si c'était une autre famille, on allait rechercher le bouc émissaire facilement. Ah non, 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 vous êtes malchanceux. Non seulement mon mari est décédé, mais aussi vos maris sont décédés. Vous êtes malchanceux et on va porter le joug soit sur Orpa, soit sur Ruth. Mais cette famille n'a pas fait cela. Cette famille, dans la souffrance, a dit, non, on ne va pas abandonner notre Naomi. On ne va pas abandonner Ruth et Orpa. On ne va pas s'accuser les uns les autres. On ne va pas s'apitoyer notre sort. Mais on va affronter notre affliction dans l'amour. Et cela aussi peut nous interpeller en tant qu'Église, en tant que communauté. Comment nous affrontons nos souffrances? Comment nous affrontons nos épreuves? Comment nous encourageons les plus faibles d'entre nous, ceux qui affrontent des difficultés, des souffrances ou qui sont dans le doute? Nous essayons de les porter des jugements ou nous essayons de les entourer par notre affection, par notre amour pour les encourager à se relever, à tenir ferme et à continuer à avancer. Que le Seigneur nous donne le discernement, parce que dans notre communauté ou dans notre Église, si nous entourons ceux qui sont dans la souffrance avec amour et tendresse, sans jugement, nous verrons une Église forte, une Église dynamique et une Église qui tient bon et bien. Et d'une manière digne, même dans les épreuves les plus difficiles. Que le Seigneur nous aide dans les temps de souffrance, d'affliction, de ne pas s'arrêter juste à chercher des boucs émissaires, mais aussi, surtout, à rechercher, à entourer nos frères et sœurs et à leur témoigner notre affection et notre amour. L'affection de Ruth était désintéressée. Nous voyons au verset 16. Elle décide, non seulement malgré que son mari est décédé, de suivre Ruth. Elle dit, ne m'empresse pas, ne m'oblige pas à te quitter. là où j'irai avec toi. Là où tu mourras, je serai aussi enterré là-bas. Une décision ferme, désintéressée. Ce n'est pas parce que mon mari est décédé et que je n'ai plus de mari que je vais abandonner ma famille. Et souvent, cette question de notre affection dans les épreuves, ça peut se révéler. Dans les épreuves, notre affection, la profondeur et le degré de notre affection peut vraiment se révéler, soit fragile, soit forte, et vraiment qui glorifie notre Seigneur. L'affection d'Orpa était au contraire une affection fragile. Elle abandonne sa belle-mère dès la première épreuve, verset 14. Lorsque la belle-mère a dit la parole, repartez chez vous, faites votre vie. Trouvez des maris, que Dieu vous bénisse. Orpa a dit, ah, chérie, sur le gâteau. Bon, elle me libère, gloire à Dieu, je l'embrasse et je prends mon chemin. C'est comme Jésus lui aussi a dit à ses disciples en Jean 6, lorsque le peuple a commencé à l'accuser en disant, non, tu nous dis de manger ta chair et ton sang. Nous t'accusons vraiment que tu n'es pas celui, le Messie que Dieu nous a envoyé, mais tu es juste un cannibaliste. Et Jésus dit à ses disciples, et vous aussi, qu'allez-vous faire? Quittez, allez-y, et comme les autres, quittez et partez. Et c'est là que Pierre a dit, non, nous n'irons nulle part. Parce que tu as la parole de vie et nous te suivrons là où tu iras. Nous sommes tes disciples. L'affection d'Orpa révèle aussi son degré d'engagement, comme nous l'avons souligné tout à l'heure. L'affection peut révéler les affections, les afflictions et les épreuves sont révélatrices de notre amour pour Dieu et pour nos prochains. Il n'y a aucun autre moyen pour révéler l'amour pour un frère, pour une sœur ou pour notre communauté que des moments de turbulence, des moments d'épreuve, des moments des circonstances difficiles. C'est là où on retrouve les vrais disciples. C'est là où on retrouve ceux qui aiment l'Église réellement, ceux qui aiment les frères et sœurs. C'est au moment des turbulences, des épreuves que on peut reconnaître les vrais disciples. Nous voyons dans les églises, quand il y a des épreuves qui s'éclatent, il y a beaucoup qui vont suivre. Il y a beaucoup qui vont fuir parce que non, je ne vais pas vivre les difficultés. Donc, je vais partir ailleurs, là où il y a le calme et la tranquillité, sachant que là où tu iras aussi, il y aura toujours des difficultés à vivre. Et dans les pays persécutés, nous découvrons les vrais disciples. Malgré la persécution, ils savent qu'en partant à l'église, ils peuvent risquer leur vie. Ils vont se lever chaque matin et dire, Seigneur, je remets ma vie entre tes mains et j'irai te louer et t'adorer, quoi qu'il en coûte. Ma vie ne vaut plus rien. C'est toi. Ma vie est entre tes mains et je t'honorerai tel que je suis et tel que je viens. Cinq éléments que les épreuves peuvent révéler en nous, en moi, en vous. Les épreuves peuvent révéler cinq éléments que dans notre vie, dans notre marche avec le Seigneur et aussi dans notre communion avec l'Église. D'abord, l'épreuve, l'affliction, la souffrance peut révéler premièrement notre capacité de souffrir avec les autres. Romains 12, versets 15 à 16 nous le dit, nous dit clairement, nous interprète et nous donne la réalité de souffrir avec ceux qui souffrent, de pleurer avec ceux qui pleurent, de vivre dans cette réalité de notre compassion avec les autres, les frères et sœurs. l'épreuve, la souffrance, l'affliction dans une communauté va révéler cette capacité de souffrir avec nos frères et sœurs. La capacité de s'examiner et de savoir se remettre en cause. De Corinthiens 13, versets 5 à 7 nous dit aussi pareillement, capacité de s'examiner soi-même. S'examiner soi-même, c'est entrer en réflexion dans sa propre vie, dans sa propre situation, dans sa façon de voir les choses, sa façon de vivre. Est-ce que le problème que je vis, la situation que je vis, n'est pas venu de l'intérieur? Au lieu de chercher à voir le problème à l'extérieur, chez les autres, chez mes camarades, chez mes amis, chez mes frères et sœurs dans l'église, est-ce que le problème ne vient pas peut-être de moi? Mettez-vous à l'épreuve, examinez-vous-même. Si vous vivez dans la foi, vous reconnaissez que Jésus-Christ est parmi vous, n'est-ce pas? À moins que l'examen ne soit un échec pour vous. Cependant, je l'espère, vous reconnaîtrez que nous n'avons pas échoué, nous. Nous prions Dieu que vous ne fassiez aucun mal. Nous désirons non pas démontrer par là notre réussite, mais vous voir pratiquer le bien, même si nous semblons échouer. 2 Corinthiens 13, versets 5 à 7. Examiner soi-même. Troisième élément que l'affliction peut révéler en nous, c'est la capacité de ne pas nous remettre sur les autres, de tout remettre sur les autres. Tout remettre sur les autres, c'est dire c'est les autres qui ont tort. C'est l'Église qui a tort, moi je n'ai pas tort. C'est l'autre groupe-là qui a tort. Ils ont fait cela et voici, le problème est arrivé. Et finalement, nous passons à côté parce que notre affliction révèle clairement que notre capacité, c'est juste remettre les autres en accusation. On ne peut pas aller s'examiner soi-même. Voilà où nous avons eu peut-être fait une erreur ou fait un manquement. Quatrième élément que l'affliction peut révéler en nous, c'est la capacité de pouvoir tenir parole ou promesse. Jacques 3, verset 2, nous le dit, lisons. Jacques 3, verset 2, nous commettons tous des erreurs de bien des manières. Si quelqu'un ne commet jamais d'erreur dans ce qu'il dit, c'est un homme parfait, capable de maîtriser tout son être. Tenir parole. Les circonstances ne vont pas venir à « c'est moi qui avais dit, mais maintenant j'ai dit le contraire. Au début, j'ai dit ça, je vais aller à là. » Et maintenant, comme il y a l'affliction, l'épreuve, les difficultés, non, j'ai dit, je retire ma parole. Si l'affliction nous envoie à retirer, à ne pas tenir promesse, c'est que il y a quelque chose qui manque. Ça révèle qu'il y a une certitude de ce que nous avons dit n'était pas quelque chose de convaincant. Ça ne vient pas de notre cœur. Ça ne vient pas du fond de notre cœur. C'est juste une parole. Une parole en l'air. Une parole qui ne tient pas. Une parole qui ne compte pas. Capacité d'engagement sincère. Hébreux 10, verset 22 nous dit aussi que si réellement dans l'affliction et dans les épreuves, le Seigneur nous invite simplement à la sincérité, sincère dans notre démarche, sincère dans notre approche avec le Seigneur. Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur sincère et une entière confiance, le cœur purifié de tout ce qui donne mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. S'approcher de Dieu avec confiance et avec conviction que le Seigneur est, je suis devant le Seigneur et le Seigneur tient compte de ses enfants qui s'approchent de lui avec un cœur sincère. Les épreuves nous font grandir en sagesse et en relation aussi. S'il y a des épreuves, des afflictions et des situations difficiles que nous vivons, cela veut dire que nous pouvons tirer quelque chose de bien dans nos épreuves, c'est-à-dire le fait de grandir dans la sagesse et aussi dans nos relations. Les épreuves nous font expérimenter aussi la puissance de Dieu qui renouvelle et qui guérit. Gaussou nous a fait la présidence sur la puissance de Dieu qui libère, mais aussi la puissance de Dieu qui renouvelle nos pensées et qui nous guérit. Parce que le Seigneur, dans l'épreuve et dans l'affliction, il veut que nous puissions aussi traverser cela pour expérimenter sa puissance qui nous console, sa puissance qui nous guérit, sa puissance qui nous restaure et qui nous guérit complètement. Les épreuves nous font grandir dans l'humilité. Il n'y a rien de tel que les épreuves pour nous rendre humbles, pour nous permettre de savoir on est limité, on n'est que des hommes. Souvent, on se croit tout faire, tout possible, je peux tout sans le Seigneur. Mais les épreuves vont nous amener à reconnaître, à découvrir que c'est avec le Seigneur. Nous sommes dépendants de lui. Et sans la dépendance avec le Seigneur, je ne suis rien. Je ne peux rien faire sans le Seigneur. Dépendance totale à notre Seigneur dans l'humilité. Les épreuves nous amènent à cette qualité de l'humilité. En conclusion ou en synthèse, qu'est-ce que nous pouvons retenir de l'histoire de Ruth, de Naomi et de sa famille? Nous pouvons retenir que Dieu utilise une réfugiée pour écrire l'histoire de son peuple. Dieu utilise une réfugiée, une personne fragile, une personne qui est peut-être n'est pas considérée dans là où elle est, mais le Seigneur a choisi d'utiliser une personne comme ça pour écrire l'histoire de son peuple et du salut. Dieu utilise une veuve sans fils ni petit-fils pour accomplir ses desseins. Notre fragilité n'empêche pas Dieu de nous utiliser et d'agir pleinement pour accomplir ses desseins, non seulement dans notre Église et aussi dans le monde. La foi et l'attachement ou la fidélité se révèlent parfois dans les moments les plus difficiles. Le cas de Ruth en est la preuve. C'est dans des circonstances très difficiles, de l'affliction, que Ruth a démontré son attachement à Dieu, son attachement à la promesse. Et le Seigneur, nous avons vu en introduction, que Ruth fait partie intégrante de l'histoire du peuple d'Israël, malgré qu'il a une histoire précédente d'une manière chaotique, venant d'une descendance illégitime, les Moabites, et ensuite se marier avec un Israélite, ça veut dire que ce n'était pas possible. Elle avait déjà un mariage qui n'était pas acceptée selon la loi parce qu'elle était étrangère et elle ne fait pas partie du peuple. Mais le Seigneur l'a utilisée d'une manière qui nous montre que la grâce était toujours là. Même dans l'Ancien Testament, la grâce était la lueur, le fondement de l'action de Dieu. Dieu ne tient pas juste compte de ce que nous connaissons, de ce que nous savons, de notre position sociale. Dieu va au loin de ce que nous pensons être quelque chose de légitime et de légal. Le Seigneur prend des choses tortueuses pour écrire son histoire, c'est-à-dire l'histoire du salut. Christ est au centre de cette histoire car elle nous offre la lueur de la venue de Jésus-Christ qui changera nos peines et nos afflictions en joie. Le Seigneur vient et nous prions qu'il vienne et que, Seigneur, et nos afflictions soient transformées en joie complète devant lui pour passer l'éternité avec lui. Mais en attendant, le Seigneur nous exhorte à la fidélité. Le Seigneur nous exhorte à nous attacher de lui. Le Seigneur nous exhorte à nous laisser totalement et conduire, saisir par lui et ne pas renoncer comme Orpa en disant à cause de je te suivais à cause de mon mari, mais lorsque je n'ai pas de mari, point, point, je rejoins ma famille et je refais ma vie. Aujourd'hui, où en êtes-vous? Où en êtes-vous dans cette histoire? Vous êtes sur le cas de Orpa qui a dit non, je vous embrasse et je refais ma vie? Ou vous êtes sur le cas de Naomi qui dit j'avance avec la foi, je repars de nouveau avec ma foi? Ou bien vous êtes sur le cas de Ruth qui dit ton pied, mon pied, Seigneur, j'ai choisi de te suivre. Quelles que soient les circonstances et les moments, je resterai attaché à toi. Ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu vas mourir, moi aussi, oui, je serai enterré là. Que le Seigneur nous exhorte et nous donne cette force d'attachement à lui, que nous puissions être totalement enracinés à lui, dépendants de lui, même dans les circonstances les plus difficiles, que nous puissions rester attachés à lui sans intérêt. Sans chercher simplement à attacher au Seigneur par intérêt. Parce que je veux un mari, je m'attache au Seigneur, je prie. Si le jour que je n'ai pas le mari, et le Seigneur me dit, tu vas vivre ton célibat devant moi. Ah, je dis, non Seigneur, je vais repartir dans le monde comme Orpa, irait faire une vie, chercher un mari pour vivre tranquillement ma vie. J'aimerais qu'on prie et qu'on demande à notre Seigneur de nous interroger, de nous examiner. Seigneur, ma foi, elle est où? Mon attachement à toi, est-ce que ça dépend des circonstances, des moments favorables ou bien juste, même si c'est difficile, je peux rester attaché à toi par ta grâce, par ton soutien, dans ton amour et dans ta fidélité. Que cette réflexion nous anime aujourd'hui et dans toute la semaine, que nous puissions nous arrêter et nous poser cette belle question. Où est notre foi? Où est notre attachement? Et par où le Seigneur veut nous utiliser? Est-ce que le Seigneur ne veut pas nous utiliser pour écrire l'histoire de son église locale? Pour écrire l'histoire de notre famille? Pour ramener des hommes, des femmes, des enfants à la vie éternelle? Est-ce que le Seigneur ne veut, malgré que nous sommes fragile, malgré que nous sommes peut-être, nous avons une histoire chaotique dans le passé, le Seigneur veut nous utiliser comme Ruth avec ses faiblesses, avec son histoire, afin de réécrire l'histoire du salut et de son peuple. Que le Seigneur bénisse chacun de nous et que son esprit nous aide à rester attachés à lui. Prions. Seigneur, merci pour ta parole que tu nous as donnée ce matin. Merci pour cette parole de vie qui nous rappelle d'une manière simple avec l'histoire de Ruth et de Naomi et sa famille et la famille d'Elimelech qui se lève pour simplement se déplacer, pour partir retrouver du pain là où ils pouvaient peut-être retrouver le pain. Mais tu as changé cette recherche à une recherche réelle de la vie éternelle avec toi. Parce que tu les as utilisés, tu as utilisé Ruth, tu as utilisé Naomi malgré les circonstances d'affliction pour écrire l'histoire de ton peuple et l'histoire du salut. Nous voyons que cette histoire, oui, a été écrite d'une manière de tes doigts, de ta main. David est venu par Ruth et aussi Jésus notre Seigneur est venu par, oui, cet ancêtre Ruth. Merci de ton amour, merci de ta grâce, merci la lumière de ta grâce qui pointe. Oui, dès même l'Ancien Testament, dans ce texte, nous voyons que, oui, tu prends plaisir Seigneur, à l'amour. Tu prends plaisir à l'affection plus qu'aux holocaustes. Et ta grâce dépasse tout entendement et tout ce que nous pouvons comprendre et ce que nous pouvons saisir. Que ton Saint-Esprit ce matin nous aide à nous attacher à toi, à rester vraiment dans cet attachement démêlé, uni à toi, dans notre marche avec toi, Seigneur. Que les afflictions, les épreuves, les difficultés que nous pouvons vivre dans nos vies personnelles ou dans notre vie collective en Église, Seigneur, ne nous perturbe pas. Seigneur, que ton Saint-Esprit nous garde ferme, attaché à toi, les yeux levés vers toi, Seigneur, dans toutes circonstances, afin que, Seigneur, comme lutte ton pied, mon pied, là où tu vas mourir, je serai aussi enterré là. Seigneur, que notre démarche et notre attachement avec toi ne soit pas simplement calqué sur des objectifs et des intérêts, mais sur une totalité, que tu puisses prendre part et prendre la première place dans notre vie afin de régner pleinement et de nous diriger, nous conduire pleinement dans ta grâce, sous ton esprit, par ton esprit et pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen.